Quel est le premier de tous les commandements ? Chers amis, cette question a-t-elle encore un sens aujourd'hui ? Le mot de commandement n'est-il pas devenu synonyme de contrainte et d'atteinte à notre liberté ? Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de trouver le bonheur, et il apparaît comme une évidence que pour trouver le bonheur, je dois être libre de toute contrainte. Eh bien, c'est justement ce que Dieu veut pour chacun de nous. Nous rendre libres, nous donner les moyens d'être heureux. C'est pour cela qu'il a fait don de sa loi à son peuple Israël. La première lecture nous l'a rappelé, tu observeras tous ses commandements, tu veilleras à les mettre en pratique, ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Ce que nous appelons les 10 commandements n'ont pas été donnés par Dieu pour assurer sa domination sur les hommes. Ce sont des repères que Dieu leur a donnés pour trouver le chemin de la liberté et du bonheur. Cette recherche du bonheur a été inscrite par le Créateur dans le cœur de tout être humain. Le problème, appelons ça le péché originel, c'est que l'homme croit que la volonté de Dieu s'oppose à sa liberté. Vous savez, c'est un peu comme une crise d'adolescence. On est tous passés par là. Les adolescents, eh bien, ils pensent que si leurs parents leur donnent des repères, en tout cas des commandements, eh bien, c'est pour les priver de leur liberté. Le péché originel, c'est un peu une crise d'adolescence. Au fond, je ne veux pas que quelqu'un d'autre me dicte ce que je dois faire et comment je dois agir. Je veux, moi, faire mes choix, choisir par moi-même de ce qui est bien ou de ce qui est mal, non pas en fonction d'une règle, mais selon ce que moi, je ressens. Le « moi » devient la référence. Ma subjectivité devient la norme. Nous constatons alors que cette voie conduit dans une impasse, la dictature du « moi ». Au lieu d'être libre, je deviens l'esclave de mes caprices, ces désirs qui en nous sont si souvent contradictoires, car ce que je veux un jour, je ne le veux plus le lendemain. Et finalement, je ne sais plus ce qui est bien, ce qui est vraiment bon pour moi. Parce qu'il est son créateur, parce qu'il l'a créé par amour et pour l'amour, Dieu seul sait ce qui est vraiment bon pour l'homme. Avoir la foi, faire confiance en Dieu, c'est de ne jamais douter que Dieu veut notre bien véritable. Et c'est pour cela que l'obéissance au commandement, l'obéissance à la parole de Dieu, ne sera jamais une restriction de notre liberté. Ce qui restreint notre liberté, ce qui la restreint jusqu'à la détruire, c'est le mal. Ce n'est pas en obéissant à la parole de Dieu que nous devenons dépendants. C'est paradoxalement en croyant être libre de faire ce que je veux que je perds ma vraie liberté pour devenir dépendant du péché. Alors si on hésite un peu aujourd'hui à parler du péché pour éviter tout sentiment de culpabilité, à la place du mot péché, mettez addiction. Peut-être ça passera mieux. Enfin, c'est la même réalité. Le péché, c'est l'addiction. Ce qui nous empêche d'être libres, qui nous attache à autre chose que ce qui nous libère. Le péché ne nous épanouit pas. Nous en faisons tous expérience. Le péché, c'est justement ce qui nous empêche de nous épanouir parce que c'est ce qui nous enferme sur nous-mêmes. Ce qui nous emprisonne dans les limites de notre ego, de notre moi, ce qui nous empêche d'aimer vraiment. Et c'est dans ce sens que le premier et le second commandement sont liés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'homme est fait pour aimer, parce qu'en le créant à son image, Dieu l'a voulu ainsi. Seulement voilà, pour aimer, l'homme doit apprendre à sortir de lui-même. Il doit commencer par apprendre à faire confiance à son Créateur. Le Christ nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre la volonté de Dieu et le désir le plus profond du cœur humain. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme parce qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme. C'est pour cela aussi qu'il ne peut y avoir d'opposition entre le service de Dieu et le service des hommes. L'amour de Dieu doit toujours nous conduire à l'amour du prochain. Sinon, cet amour est un mensonge. Celui qui dit aimer Dieu, écrit Saint Jean, et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Autrement dit, une religion qui opposerait l'amour de Dieu à l'amour des hommes, qui opposerait le service de Dieu et le service des hommes, cette religion-là serait un mensonge. On ne saurait, par exemple, se servir de Dieu, se servir de sa parole, pour priver des hommes, pour priver des femmes ou des enfants de leur liberté, en particulier de leur liberté de conscience. À l'école du Christ, les devoirs envers Dieu et les devoirs envers l'homme ne doivent jamais être opposés. Ils sont indissociables, ils sont complémentaires. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'on peut les remplacer l'un par l'autre. Il y a un premier commandement, aimer Dieu. Et il y a le second, aimer son prochain. Si l'on est croyant, pour arriver au second, il nous faut passer par le premier. Si un croyant ne met pas tout son cœur, toute son âme, tout son esprit à rechercher Dieu, il risque de tomber dans une religion horizontale où le service de l'homme, aussi généreux soit-il, risque de nous faire oublier le service de Dieu. On peut réduire facilement le christianisme à un humanisme généreux où Dieu serait le grand absent. Quand le culte de Dieu, la prière, la participation à la messe devient secondaire et où l'essentiel consisterait à être engagé dans l'action sociale. Je vais vous citer le pape François. Quand la foi se concentre purement sur des formulations doctrinales, elle risque de ne parler qu'à la tête sans toucher le cœur. Mais le pape ajoute, et lorsque la foi se concentre uniquement sur le faire, sur l'agir, elle risque de devenir moralisme et de se réduire à l'aspect social. C'est le pape François qui dit ça. Alors, le lendemain de la fête de Toussaint, regardons ce que l'Église nous montre en exemple. Les saints nous rappellent que c'est en aimant Dieu de tout son cœur, en découvrant chaque jour davantage dans la prière son amour de Père, qu'un croyant apprend à aimer les autres comme des frères. Comment pourrais-je dire de tout mon cœur dans la prière « notre Père » et refuser de regarder les autres comme des frères? Alors vous allez me dire, tant qu'il s'agit d'aimer ses proches, aucun problème. Je peux très bien y arriver sans prier. C'est naturel d'aimer ses proches. Mais comment aimer ceux qui nous sont, en tout cas ceux qui ne nous sont pas naturellement proches? Faisons attention de l'interprétation du prochain. Parce que Jésus parle du prochain, il ne parle pas simplement de ceux qui nous sont proches, proches par les liens familiaux, proches par les liens amicaux, proches... Il y parle aussi de ceux qui deviennent notre prochain parce qu'ils sont nos frères, parce que nous avons un seul Père. Alors oui, à ce moment-là, il nous faut passer par la case 1, l'amour de Dieu, pour arriver à la case 2, l'amour du prochain. Vous le savez, Mère Teresa demande à ses sœurs, et c'est toujours dans la règle, avant d'aller servir les pauvres, de passer 2 heures devant le Saint-Sacrement et de commencer la journée par la messe. Avant d'aller reconnaître Dieu dans le visage des plus propres, des plus pauvres, des plus déshérités, apprendre à le reconnaître dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et dans la relation, dans la prière. Aimer Dieu nous conduit à l'amour du prochain. En ce mois de novembre, confions-nous à la prière des saints, mais aussi de tous ceux qui nous ont servi d'exemple, dans nos familles, parmi nos amis, et qui sont partis dans la lumière. Demandons leur aide pour avancer avec joie et confiance sur le chemin de l'amour de Dieu et de nos frères. Amen.